Good morning, Captain. Well, good morning to you.
Si vous aimez ce podcast, si vous voulez l'aider à rester un projet viable pour moi, il y a deux choses que vous pouvez faire. D'abord, vous pouvez devenir un supporter de l'émission sur Patreon. Patreon est une plateforme qui vous permet de soutenir directement le podcast parce que vous reconnaissez la valeur de mon travail. Il suffit d'aller sur leur site, Patreon, patreon.com. Vous cherchez un dernier disque avant la fin du monde ou vous cherchez Captain Dilligaf. Vous vous inscrivez pour donner quelques euros chaque mois. Voyez cela comme un abonnement volontaire. Un abonnement que vous n'êtes certainement pas obligé de payer, mais que vous choisissez de payer parce que vous aimez le podcast. Et parce que vous n'aurez pas besoin de ces quelques euros avant la fin du mois. Si seulement un petit pourcentage des auditeurs donnait le prix d'une tasse de café chaque mois, cela ferait une immense différence pour moi. Merci donc à tous ceux qui ont pris sur leur temps et sur leur capital pour soutenir le podcast de cette façon. Cela signifie beaucoup. Mais il y a aussi deux façons entièrement gratuites de le faire. D'abord, vous pouvez laisser une note sur la plateforme que vous utilisez pour écouter les podcasts, ou vous pouvez simplement parler du podcast à un ami, faire passer le mot. Comprenez bien que ces deux choses m'aideront beaucoup plus qu'elles ne seront une corvée pour vous. Ok, j'arrête le harcèlement ici. Crossroad Blues, troisième partie. Robert Johnson, l'enquête.
Good morning, Captain. Well, good morning to you.
Mené par le capitaine Dilligaf, un mélomane de mauvaise foi qui partage sa vie avec le sergent Pepper, une femelle bulldog français pétomane, le podcast Un dernier disque avant la fin du monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons, des artistes. Le capitaine Dilligaf n'hésite pas à mélanger classique rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que Danny Briand l'est-il vraiment ? Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell ? Le blues a-t-il été inventé par les Blancs ? Les Ramones ont-ils nettoyé des cheminées ? Patti Smith aime-t-elle Morrissey ? Et qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école ? Bonne écoute.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Si l'histoire de Cream est terminée, il y a une histoire qui s'est également poursuivie. Bien au-delà de sa mort, l'histoire de Robert Johnson. En effet, l'album King of the Delta Blues Singer a déclenché une recherche d'informations sur Johnson au sein de la communauté des spécialistes et des musiciens blancs de blues, avec des gens comme Al Wilson de Canet Heat, Gail Dean Wardlow, Paul Oliver, Peter Guralnick, Steve Lavier et Mac McCormick. Ces gens-là ont commencé à enquêter sur la vie de Johnson et à écrire des articles et des livres à son sujet. Cette enquête, du moins au début, a pris beaucoup de temps et ne s'appuyait que sur très peu d'indices. L'une des méthodes utilisées par McCormick pour trouver des informations a consisté à noter chaque référence à un nom de lieu dans les chansons de Johnson, puis à se rendre dans tous ces lieux, à frapper aux portes et à demander aux gens s'ils se souvenaient d'un chanteur de blues appelé Robert Johnson qui était passé par là une trentaine d'années plus tôt. Cela a pris beaucoup de temps et d'énergie et les informations dont nous disposons aujourd'hui ont nécessité littéralement des décennies de travail. Mais grâce à ce travail, nous disposons aujourd'hui à la disposition du public d'informations plus fiables sur Johnson que sur pratiquement tous les autres chanteurs de blues du Delta de la même génération. Mais il a fallu un certain temps pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour démêler le vrai du faux, la légende de la vérité. Et comme je le dis souvent, la légende fait vendre tellement plus de papier que la vérité. Déjà, je viens de dire démêler la légende de la vérité. Johnson était un homme qui, comme beaucoup d'entre nous, était différent en fonction des personnes avec lesquelles il était. Tout comme pour chacun d'entre nous, notre personnalité sur les réseaux sociaux est différente de celle que nous avons quand nous parlons à nos amis les plus proches ou à nos partenaires. Et qui est également différente de celle que nous avons au travail ou de celle que nous avons lorsque nous parlons à nos parents. Ainsi, au début, les informations semblaient rendre Johnson encore plus insaisissable, plutôt que construit. Car des informations totalement contradictoires provenaient de différentes sources. À cela s'ajoutait le manque de fiabilité inhérent aux informations. Et encore une fois, ce manque de fiabilité a de nombreuses causes différentes. Certaines personnes se souvenaient simplement mal des choses, ça arrive. D'autres exagéraient leur propre rôle dans l'histoire pour leur propre réputation. « Ah, c'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il savait à la guitare !» Des gens qui ne voulaient pas parler à un blanc bizarre, qu'ils n'avaient jamais rencontrés auparavant, des gens qui voulaient faire marcher ces jeunes blancs plutôt crédules et voir quelles absurdités ils pouvaient leur faire gober, des gens qui ont décidé qu'ils devaient simplement dire tout ce que les jeunes blancs qui leur donnaient de l'argent voulaient entendre, que ce soit vrai ou non, des gens qui ont dit la vérité mais qui ont utilisé des expressions idiomatiques ou un argot local qui n'était pas familier des personnes qui recueillaient l'information. De toute façon, les faits peuvent être rapportés, mélangés, déformés, de toutes les façons. Par exemple, Sandhaus a raconté à certains chercheurs qu'il avait connu Robert Johnson lorsque celui-ci n'était qu'un enfant, qu'il avait essayé de jouer de la guitare et qu'il avait été nul. Puis qu'il était parti, revenu, et qu'il était devenu étonnamment bon. Dans l'esprit des chercheurs, cette histoire a été mélangée avec une autre histoire. L'histoire de House était fausse, quoi qu'il arrive. Mais ça a été mélangé avec une autre histoire racontée par un bluesman nommé Johnson aussi, Tommy Johnson, qui disait qu'il avait vendu son âme au diable. Ajoutez à cela quelques références au carrefour et au diable dans les chansons de Johnson, et c'est rapidement devenu une légende, connue de tous ceux qui connaissent un tant soit peu l'histoire de Johnson, selon laquelle il avait été un très très mauvais guitariste jusqu'à ce qu'il se rende à un carrefour à minuit. Là, une étrange silhouette noire avait réaccordé sa guitare, lui donnant le pouvoir de jouer mieux que quiconque en échange de son âme. Et comme par hasard, quelques années plus tard, il était mort. La vérité est plus prosaïque et nettement moins marrante. À savoir que lorsque House a rencontré Johnson pour la première fois, ce dernier était déjà un professionnel en début de carrière à la fin de son adolescence. Et c'était un bon joueur, mais il était bien sûr bien moins doué que House, qui était beaucoup plus expérimenté. De sorte que Johnson est parti et a passé plusieurs mois à prendre des leçons auprès d'un joueur plus accompli et à s'entraîner constamment, et il s'est amélioré jour après jour. Cette version est moins connue, bien sûr, elle est aussi moins épique, il faut le reconnaître. Jetons un coup d'œil abrégé à la vie réelle de Robert Johnson, le roi des chanteurs de Delta Blues. Robert Johnson ne serait même pas né si les hommes blancs n'avaient pas essayé de voler les âmes noires. L'un des faits concernant le Sud à l'époque de la ségrégation n'est pas aussi largement connu qu'il devrait l'être. Et cette information, c'est que le lynchage était un outil d'exploitation économique. Ce ne sont pas, comme le montrent généralement les films, les hommes noirs les plus pauvres qui étaient lynchés par des méchants blancs. Il s'agissait plutôt de ceux qui avaient réussi à obtenir quelque chose pour eux-mêmes, un lope en terre, une entreprise qu'un homme riche blanc voulait s'approprier. Le scénario classique est le suivant. L'homme blanc accusait l'homme noir d'avoir essayé d'avoir des relations sexuelles avec une femme blanche. Cela mettait en colère tous les autres blancs des environs qui assassinaient brutalement le noir. Et l'homme blanc pouvait récupérer les biens du noir après sa mort en les achetant à l'État pour une fraction de ce qu'il valait réellement. Ainsi, en 1906, lorsque Joseph Marchetti accoste Charles Dodds, un fermier propriétaire d'un petit lopin de terre dans la rue, et l'accuse de parler à une femme blanche, la femme en question était en fait métisse, tout comme Dodds lui-même d'ailleurs, et des rumeurs circulaient selon lesquelles Marchetti s'intéressait à elle. Et il lui assène un coup de couteau au visage. Dodds se doute de ce qu'il attend. Il est rentré chez lui en courant, a expliqué la situation à sa femme et s'est caché dans un fourré de ronces si épais qu'il semble que personne ne pouvait y entrer. Il attendit dans les ronces pendant près de 2 semaines, jusqu'à ce que les lyncheurs renoncent enfin à le chercher. Puis, il s'échappa vêtu de vêtements féminins au cas où il le chercherait encore. Dodds s'installe à Memphis et prend le nom de Spencer. Sa femme et lui s'aimaient toujours, mais ils ne pouvaient pas rester ensemble. Et Spencer s'est remarié 2 fois. Sa deuxième femme est morte après qu'ils aient eu 2 enfants, et il s'est remarié et en a eu 2 autres. Lui et sa femme Julia ont eu 5 enfants, et en 1911, 5 ans après leur séparation, Julia a eu un 6e enfant avec un nouveau compagnon, Noah Johnson. En tant que mère célibataire, Julia avait envoyé plusieurs de ses enfants plus âgés vivre avec leur père et sa nouvelle épouse parce qu'ils s'en sortaient mieux financièrement. Lorsque sa relation avec Johnson s'est détériorée, elle s'est tournée vers son ex-mari pour obtenir de l'aide pour leur plus jeune enfant et pour l'enfant qu'elle avait eu d'un autre homme. Spencer accueille le fils de son ex-femme et Julia au moins quelque temps avec lui. Robert prend le nom de Robert Spencer et en grandissant, Spencer lui apprend les rudiments de la musique. Spencer joue de la guitare et du violon et est un grand amateur de musique country, en particulier de Fiddlin' John Carson et d'Uncle Dave Macon. Et c'est sans doute la musique qu'il apprend à jouer à son beau-fils Robert Johnson.
Listen, in every heart there burns a flame for the love of glory or the dread of shame. But oh, how happy we would be if we understood there's no safety but in doing good. West heard of John Henry's death, couldn't hardly stay in bed. Monday morning on the eastbound train, gone were John Henry's dead. Gone were John Henry's graveyard. They looked at him good and long. Very last words his wife said to him, my husband, he is dead and gone. My husband, he is dead and gone.
Le demi-frère de Robert, Charles Spencer Jr., connu sous le nom de Son, jouait également de la musique, à la fois de la guitare et du piano. Et il existe une photo de lui en costume portant un chapeau, jouant de la guitare avec sa femme à ses côtés, qui ressemble étrangement à la photo la plus célèbre de Robert Johnson. Son fils a également enseigné à Robert une partie de ce qu'il savait à la guitare et lui a fait découvrir beaucoup de musique. Son était un grand fan de musique country, comme son père, mais il aimait aussi le ragtime et le jazz, en particulier Fats Waller et Louis Armstrong. Pendant qu'il était élevé à Memphis, Robert est allé à l'école, ce qui le distinguait des autres chanteurs de blues du Delta, dont beaucoup étaient analphabètes ou avaient tout au plus appris à écrire au moins leur nom. Le beau-père de Robert était un homme de métier qualifié, et il semble que c'est ce qu'il voulait pour son fils. Robert a vécu avec son beau-père et ses enfants jusqu'en 1919, date à laquelle sa mère s'est remariée et est revenue chercher son fils de 8 ans pour vivre dans la plantation de l'Arkansas, avant de déménager à nouveau à Robinsonville, dans le Mississippi. À cette époque et jusqu'à l'adolescence, Robert ne sait toujours pas que l'homme qu'il connaît comme son père, en fait, n'est pas son père biologique. Et il continue de se faire appeler Robert Spencer. Il semblait vouloir ressembler davantage à son père et à sa famille, à Memphis, qu'aux ouvriers agricoles parmi lesquels il vivait désormais. Il détestait devoir travailler dans les champs et se plaignait de l'absence de Memphis, de sa musique et de la vie dans les grandes villes. Il est également devenu un lecteur vorace et emportait souvent un carnet dans lequel il notait ses idées. Mais sa famille de Memphis n'est pas complètement absente de sa vie. Il leur rend visite à chaque fois qu'il le peut, souvent pour de longues périodes. Et il devient déterminé à devenir musicien et non pas ouvrier agricole. Sa sœur aînée, Carrie, est retournée vivre dans le Delta avec sa mère et son frère. Et comme le nouveau mari de sa mère ne voulait pas lui acheter une guitare, Robert s'est d'abord fabriqué un diddley bow. C'est un instrument à cordes rudimentaires, fabriqué avec ce qu'on a sous la main, un manche de pioche et deux câbles. Robert s'est d'abord fabriqué un diddley bow, puis Carrie et lui ont construit une guitare avec une boîte à cigares, une cigar box, avant que Carrie ne l'aide à économiser suffisamment pour s'en acheter une vraie. Il a bénéficié d'un coup de pouce dans son éducation musicale lorsque Willie Brown s'est installé à Robinsonville.
I'm going way down south, why never been there before. I had a notion, Lord, and I believe I will.
Le jeune Robert a commencé à apprendre de Brown et à le regarder jouant en cachette. Le mari de la mère de Robert désapprouvait profondément le fait qu'il essaye de gagner sa vie en tant que musicien. Mais à l'âge de 17 ans, il jouait déjà dans des juke joints, jouant de la musique que les gens voulaient entendre. Il jouait du blues, des chansons folkloriques, du ragtime, des polkas, et il appréciait particulièrement la musique de Jimmy Rogers, la première grande star de la musique country. C'est également à cette époque qu'il semble avoir découvert qui était son père biologique et qu'il a commencé à se faire appeler Robert Johnson. Ce qui semble être au moins en partie un moyen de se rapprocher de deux de ses autres idoles, Tommy Johnson, le chanteur de blues que nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises, et Lonnie Johnson qui a chevauché la frontière entre le blues, la pop et le jazz et influencé tout le monde, d'Elvis Presley qui a enregistré son fameux Tomorrow Night à Lonnie Donegan, au UK, qui s'est baptisé ainsi, en passant par Charlie Christian et Django Reinhardt, et qui a joué de la guitare avec Louis Armstrong à la fin des années 20. Se qualifie souvent comme l'un des Johnson, espérant que les gens l'associent aux musiciens les plus célèbres. Il était un guitariste et un chanteur décent, mais pas incroyable, gagnant sa vie mais ne se distinguant pas vraiment. C'est la période dont Sam House a parlé plus tard, où Johnson a essayé de défier House pour savoir qui était le meilleur guitariste, mais a été largement surpassé et a semblé assez incompétent selon les critères de House. Mais juste avant d'avoir 18 ans, il épouse une jeune fille de 14 ans, c'était dans les mœurs à l'époque, dont il est amoureux. Il s'installe et commence à faire des travaux manuels dans les champs pour subvenir aux besoins de sa nouvelle épouse. Elle tombe enceinte et elle part dans sa famille pour accoucher. Lorsque le bébé est arrivé à terme, Robert a fait de l'autostop pour être présent à la naissance. Mais il a pris le temps de jouer dans quelques juke joints en chemin et de s'amuser un peu, comme le ferait un adolescent. À son arrivée, il découvre que sa femme et son bébé sont morts en couche et que sa famille lui reproche d'avoir joué la musique du diable pour ne pas avoir été là, et peut-être même d'être responsable de sa mort. Il est complètement dévasté, et cela semble avoir changé sa personnalité du tout au tout. Il est retourné vivre avec sa mère et son mari, mais il picolait comme un trou et se battait avec son beau-père, qui était plus âgé. Il disparaissait régulièrement pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines. Mais il est resté dans les plantations parce qu'il y avait beaucoup de musiciens avec lesquels il pouvait apprendre. Willie Brown l'avait présenté à divers autres grands musiciens avec lesquels Brown jouait, dont Charlie Patton. You gonna need somebody when you come to death. You gonna need somebody when you come to death. I will point you out a man. King Jesus is his name. You gon' need somebody when you come to death. Yes, I got a lawyer to go my bone. Well, I've got a lawyer go my bone.
Well, I punch you right up, man. Kid, you let it in me. Well, I got a lawyer to grow up. Well, friend, I'm gonna tell you. Tell me when it comes down, his hand gonna be like lamb wool. And his eyes like flame of fire. And every man gonna know he's the son of a true living God. Round his shoulder gonna be a rainbow. And his feet like fine bread. And my friend, I wanna let you know again, he said, hey, gonna have a river water that flowing through the garden, clear the creatures. And gonna have a tree that for the 12 mountains of food. And the leaves gonna be healing to every nation. And a big rock that you can set behind, the wind can't blow you no more. And you go have the 420 others that you can sit down and talk with. And that you can
talk about. Et bien sûr, Sennheiser.
Yes, I'm getting me religion. I'm gonna join the Baptist church. Yes, I'm gonna get me religion. I say I'm gonna join the Baptist church. You know I wanna be a Baptist preacher, so I won't have to work. You know, one deacon jumped up and he began to grin. Yeah, one deacon jumped up and he began to grin. You know, he said, one thing, Elder, I believe I'll go back to Ballhausen again. You know, one sister jumped up and she began to shout.
Johnson était à ce moment-là obsédé par la musique. Après la mort de sa femme et de son enfant, il n'avait rien d'autre dans sa vie et il était absolument motivé à réussir. Mais il était également motivé pour retrouver son propre père biologique. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu dans la petite ville où il était né, à la recherche de Noah Johnson. Il ne l'a pas trouvé, mais il a trouvé un homme plus âgé, Ike Zimmerman, qu'il a hébergé pendant près d'un an et a passé cette année à lui apprendre à mieux jouer de la guitare. Tous les soirs, ils se rendaient dans le cimetière voisin pour jouer de la guitare ensemble, parce que c'était un endroit tranquille où personne n'allait les déranger. Et c'est cette année-là que l'amélioration massive de la technique de Johnson est arrivée, ainsi que le changement de personnalité de Johnson à la suite de la tragédie qu'il avait subie. Tout ça a donné un peu de plausibilité aux rumeurs posthumes selon lesquelles il aurait vendu son âme au diable. C'est à cette époque que Johnson a mis enceinte une amie de la fille de Zimmerman. Elle a accouché mais a refusé de l'épouser parce qu'il menait une vie de vagabond. Une vie immorale, comme on disait à l'époque. Au lieu de cela, il a épousé une femme, une autre, plus âgée, et il s'est installé avec elle à Clarksdale. Mais le mariage prit fin rapidement car Johnson devint musicien itinérant et sa seconde femme mourut en 1933, moins de 2 ans après le mariage. Apparemment, sans qu'il le sache et même sans qu'il s'en préoccupe. Il semble également n'avoir jamais vu son fils, Claude. En effet, la famille de Johnson a souvent prétendu, et sa demi-sœur survivante le prétend toujours, que la revendication de Claude comme étant le fils de Johnson était fictive, car ils n'ont jamais entendu parler de lui jusqu'aux années 90. La première trace discographique de la musique de Johnson n'est pas un enregistrement de lui, mais de son ami Johnny Temple.
So bad I don't know what to do. I laid down last night, couldn't eat a bite. The woman I love don't treat me right. Lay it in my pencil, baby, it's done gone bad. And it's the worst old feeling, baby, that I ever had. I woke up this morning, my baby says she's mighty mad, 'cause I laid in my pencil, it's done gone bad. Laid in my pencil, baby, it's done gone bad. And that's the worst old feeling that I ever had. My baby told me this morning she's feeling mighty blue. Laid in my pencil, just wouldn't do. And she said, been ready all night. Laid in your pencil, daddy, just won't write.
Le motif de basse boogie de ce disque est quelque chose que Temple dira toujours plus tard lui avoir été enseigné par Robert Johnson. La plupart du temps, cependant, Johnson était très discret sur son jeu. Il aimait jouer pour le public, mais s'il voyait un autre musicien l'observer de trop près, il se retournait et cachait ses doigts pour que personne ne puisse apprendre la façon dont il jouait les notes. L'un des rares musiciens à qui il n'ait jamais enseigné quoi que ce soit était Robert Jr. Lockwood, le fils d'une des nombreuses petites amies de Johnson, que Johnson considérait comme son beau-fils, et qui l'a aidé à fabriquer sa première guitare.
Take a little walk with me. Come on, baby. Take a little walk with me. To the same old place where we long to be. Early one morning, just about 3:30. You've done something that's really worrying me. Come on, baby, take a little walk with me. To the same old place where we long to be. Walk out on the old avenue. I've got something for you to do. Come on, take a little walk with me. To the same old place where we long to be. Come on, baby, now you know we're going to walk so slow. Until every time you see me, you'll want to walk some more. Come on, babe, take a little walk with me. To the same old place where we long to be.
Lockwood jouera ensuite avec Sonny Boy Williamson II avant de mener sa propre carrière. En 1936, Johnson auditionne pour Vocalion Records et il se rend à San Antonio où il dispose d'un studio de fortune dans deux chambres d'hôtel louées afin d'enregistrer pour eux pendant la période de Thanksgiving. Ils enregistraient à San Antonio parce qu'il y avait une importante population mexicaine et que c'était donc un bon endroit pour trouver des musiciens mexicains. Pendant les quelques jours au cours desquels les premières séances d'enregistrement de Johnson ont eu lieu, ils ont également enregistré de nombreux autres musiciens. À l'époque, les labels qui produisaient de la musique pour les populations minoritaires réservaient une salle quelque part et demandaient à autant de musiciens de locaux que possible dans la région d'enregistrer lors des séances prolongées que leur fournissaient du matériel à distribuer pendant 6 mois ou 1 an. C'est ainsi qu'un mythe s'est développé. Johnson aurait enregistré en faisant face à un coin de la pièce pour obtenir un meilleur son. En fait, Johnson enregistrait tout à fait normalement, face à un microphone, au milieu d'une pièce, tandis que les ingénieurs travaillaient à la découpe du disque dans l'autre pièce. La seule fois où il a fait face à un coin, c'est lorsque les ingénieurs ont invité des musiciens mexicains à écouter leur nouvelle découverte. Johnson ne voulait pas qu'ils voient ses doigts sur le manche. Comme toujours, la maison de disques n'est pas intéressée par les interprétations de chansons de Gene Autry ou de Jimmy Rogers. Elle veut du matériel original, pas des reprises de tubes pop qui constituent la majeure partie des interprétations de Johnson. Johnson s'est donc plié à l'exercice. Au cours de ses premières sessions, en l'espace de quelques jours, Johnson enregistre 16 chansons, deux prises par chanson, dont des titres comme Crossroad Blues, Rambling on My Mind, I Believe I'll Dust My Broom, Sweet Home Chicago et son seul succès, Terraplane Blues, tous devenus des standards de blues après leur redécouverte, ainsi que des chansons plus idiosyncrasiques comme They're Red Hot, inspirées par la cuisine locale.
Long and tall, she sleeps in the kitchen with her feet in the hall. Hot tamales than the red hot. Yeah, she got 'em for sale, I mean. Yeah, she got 'em for sale, yeah. Hot tamales than the red hot. Yeah, she got 'em for sale. Hot tamales than the red hot. Yeah, she got 'em for sale. She got 2 foot nickel, got 4 foot dime. Won't say more, but there ain't none of mine. Hot tamales than the red hot. Yeah, she got 'em for sale, I mean. Yeah, she got 'em for sale, yes, yes. Yeah. Hot tamales than the red hot, yeah, she got 'em for sale. Hot tamales than the red hot, yeah, she got 'em for sale. I got a letter from a girl in the room, now she got some good she got to bring on soon. Now it's hot tamales than the red hot, yeah, she got 'em for sale, I mean, yeah, she got 'em for sale, yeah. Hot tamales than the red hot, yeah, she got 'em for sale. Hot tamales than the red hot, yeah, she got 'em for sale. It's too hot for the billy goat back in the bone bean nest. Ever since daddy can't take his rest, yeah. Hot tamales than the red hot, yeah, you got 'em for sale, I mean. Yeah, she got 'em for sale. Hot tamales than the red hot, yeah, she got 'em for sale. Man, don't mess around them hot tamales now, 'cause they're too black bread. Mess around them hot tamales. I'm gonna upset your back, gonna put your kidney to sleep. I'll do the break when you're living there, your heart to beat by now.
Ces chansons sont remarquables parce que Johnson a fait 2 prises de chacune d'entre elles et que les chansons étaient plus ou moins identiques à chaque fois. C'est très très inhabituel pour les interprètes de Delta Blues. Normalement, les chanteurs du Delta modifiaient leurs chansons à chaque fois. Ils faisaient partie d'une tradition orale et folklorique et ils utilisaient des paroles flottantes et improvisées en fonction de ce qu'ils ressentaient à ce moment-là. Et ils pouvaient ralentir le rythme ou l'accélérer. Ce n'était jamais 2 fois la même chose. Johnson, quant à lui, était légèrement plus jeune et plus moderne que les précédents musiciens du Delta. Il avait grandi dans un monde où la musique était diffusée sur disque et à la radio, et où une chanson était la même à chaque fois qu'on l'entendait. Il savait également lire et écrire, contrairement à la plupart de ses contemporains. Johnson était parfaitement alphabétisé et était un lecteur vorace, qui écrivait ses propres textes. Les chansons de Johnson étaient encore très fortement inspirées par le travail d'autres musiciens, comparer par exemple la chanson Sweet Home Chicago de Johnson par Robert Johnson. Avec le All Original Kokomo Blues de Kokomo Arnold.
I'm 1 and 1 is 2, mama, 2 and 2 is 4. You mess around, you pretty mama, you know we got to go, crying on. Baby, don't you wanna go back to the level light city, the sweet old Kokomo. Now 4 and 1 is 5, mama, 5 and 1 is 6. You mess around, you pretty mama, you're going to get me tricked, crying on. Baby, don't you wanna go back to Level Light City, to sweet old Kokomo. Now 6 and 1 is 7, mama, 7 and 1 is 8. You mess around, you pretty mama, you're going to make me late, crying on. Baby, don't you wanna go back to Level Light City, to sweet old Kokomo.
Mais en général, les chansons de Johnson sont plus cohérentes et réfléchies que celles de Charlie Patton, Skip James ou Sam House. De même, son « Come on in my kitchen », bien que distinct sur le plan des paroles, doit clairement beaucoup à « Sitting on top of the world », la chanson enregistrée pour la première fois par les Mississippi Chicks. Après ces enregistrements, Johnson a commencé à voyager encore plus qu'auparavant, souvent accompagné d'un ami, un autre musicien nommé Johnny Shines. Shines, comme Lockwood, a appris des choses de Johnson et les deux ont été compagnons de voyage pendant au moins 2 ans. Shines était particulièrement impressionné par la capacité de Johnson à jouer des lignes en contrepoint à la guitare. À l'époque, la plupart des songsters se produisaient avec un deuxième guitariste, celui qui chantait, jouait les parties rythmiques, tandis que l'autre jouait la partie principale. Johnson, quant à lui, avait appris le piano et avait des doigts particulièrement longs, ainsi qu'un esprit musical aiguisé et un grand dévouement. Il jouait à la guitare le genre de partie qu'un pianiste aurait joué. Il jouait une ligne de basse mélodique tout en jouant des mélodies d'accords. En effet, l'une des choses dont les gens se souvenaient à son sujet, outre le fait qu'il était un coureur de jupons et un buveur invétéré, un lecteur, et qu'il avait une mémoire musicale très importante et pouvait jouer n'importe quelle chanson après l'avoir entendue une seule fois. Et donc, ce dont les gens se souvenaient, c'est qu'il était extrêmement silencieux, qu'il n'aimait pas se rapprocher émotionnellement des autres et qu'il préférait rester seul, avec sa propre compagnie. Ainsi, lorsque Johnson se rendit pour la deuxième fois au Texas pour enregistrer, cette fois à Dallas, en juin 1937, Shines l'accompagna pendant une partie du trajet, mais il finit par faire la dernière partie du voyage seul. Cette fois, plutôt que d'enregistrer des artistes mexicains, la maison de disques enregistrait surtout des artistes de Western Swing, dont une session avec les Light Crust Dove Boy, le groupe de Bob Wills, bien que Wills soit parti au moment où ils ont enregistré cette session. Les chansons que Johnson a enregistrées lors de cette session comprennent à nouveau plusieurs titres qui sont devenus des classiques du blues, notamment Me and the Devil Blues et Love in Vain. Mais à cette époque, les auditeurs de blues s'intéressaient davantage au blues urbain, avec un groupe complet, qu'aux interprètes acoustiques solistes, et aucun de ces enregistrements n'a eu beaucoup de succès. 6 mois plus tard, Columbia Records rachète Vocalion et ferme les filiales à budget sur lesquelles les disques de Johnson réalisaient la plupart de leurs ventes. Johnson n'a plus jamais été invité à enregistrer. Pendant une grande partie de ce qui s'est avéré être la dernière année de sa vie, Johnson et Shines ont voyagé plus loin que Johnson ne l'avait jamais fait auparavant. Un cousin de Shines avait tué un homme en état de légitime défense et on lui avait conseillé de quitter les États-Unis. Johnson, Shines et le cousin se sont donc rendus au Canada, en utilisant leur méthode habituelle, à savoir l'autostop, le train et le spectacle itinérant. St. Louis, Chicago, Détroit, avant d'arriver au Canada, où ils se produisent dans une émission de radio gospel diffusée à l'échelle nationale. Johnson et Shines repartent ensuite vers le sud, à New York. À Harlem, Johnson rencontra un autre musicien qui l'invita à jouer sur sa guitare électrique. Mais après l'avoir essayé, Johnson déclara qu'il ne pouvait pas la faire chanter comme il le voulait et qu'il préférait sa guitare acoustique. Étant donné le lieu et la période et le petit nombre de personnes jouant de la guitare électrique à la fin de 1937, début 1938, on peut se prendre à rêver que cet autre musicien, dont Shines n'a pas le nom, était peut-être Charlie Christian. J'ai pas dit que c'était lui, hein. J'ai dit on peut se prendre à rêver. Mais il est triste de penser que, si seulement il l'avait su, John Hammond, qui connaissait Charlie Christian, si c'était lui, aurait pu rencontrer Johnson ce soir-là. et la vie ultérieure de John Sonor aurait pu être très très différente et peut-être beaucoup plus longue. Car le 16 août 1938, Robert Johnson est mort de ce qui était probablement un empoisonnement, probablement empoisonné par le ou la partenaire jaloux ou jalouse d'une femme à laquelle il s'était intéressé. Je dis probablement, car en 2019 a été publié le récit le plus détaillé de cet empoisonnement à ce jour dans la biographie de Johnson par Bruce Confort et Gail Dean Wardlow, qui est un travail exemplaire et le livre le plus détaillé à ce jour sur le sujet. Et puis, le mois dernier, il est apparu que ce récit était faux, parce qu'il était basé sur des rapports de Mac McCormick. Mac McCormick, dont on a parlé au début, était l'un des plus dévoués de tous les spécialistes blancs du blues, et il a contribué plus que quiconque à la reconnaissance de Robert Johnson par le grand public. Dans les années 70, il a retrouvé un grand nombre d'amis et de parents survivants de Johnson et les a interviewés pour ce qu'il prévoyait d'être la biographie définitive de Johnson, Biography of a Phantom. McCormick a obtenu de la demi-sœur de Johnson, Carrie Thompson, la femme qu'il avait aidée à fabriquer sa première guitare, et qui, avant la découverte de Claude Johnson, était présumée être son héritière, qu'elle lui accorde quelques entretiens et qu'elle signe un document stipulant qu'il avait le droit d'utiliser ces entretiens pour son livre. Il a également emprunté les photos de famille, y compris des photos de Johnson qui n'avaient jamais été publiées. Puis un autre spécialiste blanc du blues, Steve LaVere, est arrivé et a fait à peu près la même chose. LaVere a également proposé d'aider Thompson à revendiquer les droits d'auteur sur les œuvres de son frère. Ce qui, selon Annie, la demi-sœur survivante de Thompson, revenait à céder à LaVere la plupart des droits. Mais LaVere était au moins intéressé à faire quelque chose avec la musique de Johnson. Il y avait eu un deuxième album rassemblant les morceaux qui n'avaient pas figuré sur King of the Delta Blues Singer, mais LaVere voulait faire plus. En collaboration avec John Hammond, il a essayé de mettre au point un coffret contenant tous les enregistrements de Johnson, y compris les chutes. Le coffret comporterait des notes de LaVere et une photo que Thompson lui avait prêtée. Ce coffret devait sortir en 1975. Il est finalement sorti en 1990. Et la raison est Mac McCormick. McCormick avait la réputation d'être probablement le meilleur spécialiste du blues au monde, mais c'était aussi quelqu'un qui avait de sérieux problèmes. Furieux que LaVere empiète sur ce qu'il considérait comme son territoire, il commença à menacer Columbia Records, d'abord en utilisant les vrais documents que Thompson avait signés, puis en utilisant d'autres documents plus étendus qu'il avait falsifiés, pour prétendre qu'il avait les droits sur l'histoire de la vie de Johnson et sur les photos qu'ils allaient utiliser. Il commence également à prétendre qu'il a découvert d'autres héritiers de Johnson, qui doivent être inclus dans tout règlement juridique. McCormick a retardé la publication de l'ouvrage et le versement des droits d'auteur à Thompson jusqu'en 1990. Et à cette date, Thompson elle-même était décédée. Les répercussions juridiques qui ont suivi jusqu'en 2000, deux hommes blancs dont aucun n'avait jamais rencontré Robert Johnson, ni même connu son existence, se sont battus pour savoir qui pouvait posséder les photos de famille de la sœur de Johnson et lequel d'entre eux détenait les droits sur la vie de Johnson. Bien que Thompson ait prêté plusieurs photos aux deux hommes, ces querelles juridiques ont fait qu'aucune n'a été publiée avant 1986, après la mort de Thompson et plus de 10 ans après qu'elle n'ait prêté ses photos pour la première fois. Depuis lors, deux autres photos ont fait surface et ont été publiées, des rumeurs font état d'une quatrième dans la collection de McCormick. Lorsque le coffret est sorti en 1990, il s'est vendu à 1 million d'exemplaires et a remporté un Grammy Award. Mais Thompson était mort depuis 7 ans, et les dernières années de sa vie se sont déroulées dans le désarroi alors qu'elle était prise dans une bataille juridique entre deux hommes blancs qu'elle considérait tous deux comme des voleurs et des escrocs cherchant à exploiter son frère décédé. McCormick a même commencé à prétendre que le Robert Johnson que nous connaissons n'était pas le vrai Robert Johnson, qu'il avait découvert un autre Robert Johnson qui était celui qui avait enregistré les disques, juste pour emmerder LaVere. LaVere et McCormick sont tous les deux décédés en 2015, à environ un mois d'intervalle. Et la biographie de McCormick, sur laquelle il travaillait depuis le début des années 70, est restée inachevée. Elle a finalement été publiée le mois dernier par le Smithsonian Institute après un effort majeur de recherche dans les archives de McCormick. Mais ce qui a été publié n'est pas le livre complet. C'est en partie à la demande de la demi-sœur survivante de Johnson, Annie Anderson, qu'il a été publié. Comme l'indiquent les éditeurs dans la postface du livre, Madame Anderson a demandé que le Smithsonian transfère les entretiens de McCormick avec ses sœurs Carrie Thompson et Bessie Hines au contrôle de sa famille également. Pour Madame Anderson, ce que McCormick et Laver ont pris à ses sœurs, non seulement les pertes financières dues aux frais de justice, mais aussi les années de stress, d'anxiété, de tristesse, de cauchemar et de traumatisme, légitiment tout accord signé entre eux et McCormick. Par respect pour ses souhaits, nous avons supprimé dans cette publication les récits que ses sœurs ont fournis à McCormick et nous en avons restreint l'accès au public. Mais les éditeurs ont également découvert et révélé en même temps que la sortie du livre qu'une grande partie de ce que McCormick avait présenté pendant des années comme ses découvertes, y compris la version de l'assassinat de Johnson, était tout simplement fausse, des pures fabrications qu'il avait inventées parce qu'il était paranoïaque et pensait que d'autres historiens lui volaient son travail. Donc il allait leur balancer comme un os à ronger une histoire fausse pendant que lui écrivait la vraie. Le principal historien de Robert Johnson, l'homme qui a consacré plus de 40 ans à découvrir tous les détails de sa vie, a empoisonné le puits de l'histoire, à un point tel que nous ne saurons peut-être jamais exactement quelles sont les parties de l'histoire de Robert Johnson dont nous disposons aujourd'hui qui sont vraies. I could not help but cry, all my love's in vain. When the train, it left the station with two lights on behind. When the train and left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue and the red light was my mind. All my love's in vain. Willie Mae. Oh, hey, hey, ooh, Willie Mae. Ooh, ooh, be your woe, all my love's in vain. Ce livre, tel qu'il est disponible aujourd'hui, est incomplet, mais très précieux en tant que document historique et édité avec autant de sensibilité que possible. C'est l'un des trois livres publiés au cours des quatre dernières années qui, à eux trois, ont modifié notre compréhension de Robert Johnson. L'un des autres est le livre de Comfort et Wardlow, que je mettrai en lien dans les notes. Mais il y a un dernier livre qui mérite d'être mentionné ici. Annie Anderson, la demi-sœur de Johnson, est toujours en vie et a plus de 90 ans. En 2020, elle a écrit un livre, Brother Robert, qui raconte sa version de l'histoire. À la fois tous ses souvenirs de la vie de son grand frère et la façon dont les hommes blancs qui ont écrit l'histoire de la musique blues ont détruit la vie de sa sœur bien-aimée afin de tirer profit de son frère décédé, tandis que sa famille n'a pas reçu d'argent mais a subi un traumatisme sans fin. Et c'est un livre déchirant. Et c'est d'autant plus vrai lorsque je considère ma propre position. Je suis un homme blanc qui écrit une histoire de la musique. Je vais littéralement tirer profit de cet épisode. Parce que je gagne un peu d'argent avec ce podcast, 60 balles par mois. Je pense que ce que je fais avec ce podcast est dans l'ensemble une bonne chose, mais je suis sûr que McCormick et Laver auraient probablement dit autant de leur travail. Vers la fin du livre d'Anderson, elle déclare « Je comprends que Steve Laver soit parti, et McCormick aussi. Mais il y en a d'autres, et il y en aura toujours d'autres, des hommes blancs que nous ne connaissons pas et qui pensent que nous leur appartenons. Steve Laver repose peut-être dans un cercueil en or que le frère Robert lui a acheté. » Je pense qu'il m'incombe, et je pense qu'il est absolument nécessaire, compte tenu de l'histoire que je viens de raconter, de terminer cet épisode par une sorte de publicité. Si tout ce que j'ai dit sur Robert Johnson vous a intéressé, alors allez acheter un exemplaire de The Brother Robert d'Annie Anderson, la dernière personne vivante à avoir un lien familial fort avec Robert Johnson, et lisez ses mots à elle et son histoire à elle. J'ai dit au début que les hommes blancs avaient inventé le blues, je pense que vous vous en souvenez, et clairement ils l'ont fait. La musique a été créée par des noirs, mais tout ce que nous savons du genre et de son histoire a été façonné par les goûts, les préjugés, les idées fausses et la volonté de faire de l'argent d'hommes blancs comme Arthur Laibley, John Hammond, John Mayall, Eric Clapton, Steve Lavert, McCormick et même moi. Vous avez entendu ce qu'un homme blanc avait à dire sur le sujet. Maintenant, allez lire ce qu'une femme noire a réellement dit. Et payez-la, donnez-lui de l'argent. Cela ne réparera pas une injustice historique, mais c'est un début. Note de bas de page. Comme je le dis à la fin, la principale ressource que vous devez vous procurer si vous avez aimé cet épisode est Brother Robert d'Annie Anderson, la demi-sœur de Robert Johnson. Les autres livres que j'ai utilisés pour les sections consacrées à Robert Johnson sont Biography of a Phantom de McCormick, donc Up Jump the Devil, The Real Life of Robert Johnson de Bruce Comfort et Gail Dean Wardlow, Searching for Robert Johnson de Peter Guralnick, qui est un très bon livre, Escaping the Delta d'Elijah Wald. Et je peux recommander tous ces ouvrages, sous réserve des mises en garde formulées à la fin de l'épisode. Les informations sur l'histoire et la préhistoire du Delta Blues proviennent principalement de Before Elvis de Larry Birnbaum et en partie de Charlie Patton de John Fahey. Les informations sur Cream proviennent principalement de Cream, How Eric Clapton Took the World by Storm de Dave Thompson. J'ai utilisé également Ginger Baker Hair Raiser de Ginger Baker et Jeanette Baker. Mr. Showbiz de Stephen Dando Collins, Motherless Child de Paul Scott, Alexi Corner de Biography par Harry Shapiro. La meilleure collection de musique de Cream est le coffret de 4 CD Those Were the Days qui contient tous les titres que le groupe a publiés pendant qu'ils étaient ensemble, bien que seuls les mixages stéréo sont restés. La musique de Johnson est disponible sur de nombreuses compilations bon marché car elle fait partie du domaine public dans l'Union européenne, mais la collection double CD produite par Steve Lavier pour Sony en 2011 et malgré les problèmes liés à l'association de Lavier, de loin est la meilleure option. Les remasters sont d'une clarté qui dépasse de loin même la version CD des années 90 qui l'ont remplacée. Et pour une bonne introduction en un seul CD aux musiciens et chanteurs de blues du Delta, qui étaient les pères et les inspirateurs de Johnson, Back to the Crossroads, The Roots of Robert Johnson, compilé par Elijah Wald pour accompagner son livre sur Johnson, est incontournable et contient de nombreux morceaux extraits dans cet épisode.